Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec le projet Blair Witch de la critique. J'ai nommé Daniel Eman de Marianne, Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Michel Simon de Positive, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles pour parler ce soir de Juste la fin du monde, Cézanne et moi, Blair Witch, Soy Nero, Brooklyn Village et Clash dans le courrier de la semaine. Et bien, les avis sont partagés à propos de Rester vertical d'Alain Guiraudy pour Monsieur Duvy. Il y a deux scènes magnifiques. L'agression par les clochards et le face-à-face avec les loups qui suffisent à placer ce film au-dessus de la mêlée malgré un propos assez abscon qui donnerait envie de le qualifier de sans tête ni queue si l'expression ne se révélait ici particulièrement inappropriée. Pascal Hénard de Bourg-les-Valence, lui, a aimé la scène finale, la plus belle que j'ai vue depuis longtemps. Il y a une poésie qui rappelle des contes pour enfants, une conclusion à la fois magique et peut-être tragique. En revanche, Sylvain Pagnon trouve que les critiques du Masque et la Plume délirent complètement et je reste poli, nous dit cet auditeur. Ce film est un alignement de scènes évoquant les angoisses et les fantasmes du réalisateur. Pas de suspense, pas d'évolution narrative, pas de fin. Bref, beaucoup moins bon que L'Inconnu du Lac, car beaucoup plus racoleur. C'est vu et c'est oublié. Même colère de Marion Le Maire de Paris qui parle d'un film à la fois glauque et sordide. Quant au Nocturama de Patrick Bonello, eh ben, il ne passe pas. À l'exception de cet auditeur du masque jeune qui signe Noah Indiana Jones et qui nous dit en tant que lycéen, je vous assure que Patrick Bonello parvient à dépeindre avec une virtuosité absolue le dégoût et la lassitude que cette société inspire à la jeunesse française. La mise en scène est somptueuse.
Ben voilà, tout est dit.
Mais c'est pas fini le courrier, hein. En revanche, Anaïs C juge que Nocturama est une suite de belles images qui ne font naître aucune émotion, un entraînement de clichés, chiant à mourir. Je fais partie, nous dit Anaïs, de la jeunesse française contemporaine et je suis vexé d'être résumé ainsi. Bonello a un regard paternaliste insupportable. J'ai souffert pendant 2h10. Longue vie cependant au Masque et la Plume. Et Micoc de Besançon n'est pas plus tendre. Nocturama de Bonello est un film prétentieux, stérile, voire carrément indigent. Les personnages sont insignifiants. Ils auraient mieux fait d'aller jouer à Pokémon Go plutôt que de poser des bombes. On regrette que l'arrivée du GIGN soit si tardive. Et Martial Imbaud de Nancy nous dit Nocturama, plastiquement splendide et avec un premier acte aux accents de rivette et aux allures de thriller, est aussi vide que la cage d'escalier du grand magasin dans lequel la plus grande partie de l'histoire est tournée. Enfin, pour lancer le débat de ce soir, Michel Théry a vu au festival, que je ne connaissais pas, du film de Châtenay-Malabry et en avant-première, Juste la fin du monde de Xavier Dolan. J'ai trouvé le film de Dolan exécrablement mauvais. Mise en scène prétentieuse, interludes musicaux tonitruants, jeu nullissime de Léa Seydoux, laborieux de Cotillard, inepte de Vincent Cassel, surjoué dans l'hystérie, inconsistant et antipathique de Nathalie Baye, le seul à jouer vraiment, nous dit Michel Théry, le seul à jouer vraiment était Gaspard Ulliel dans ce navet. Et puis juste par, voilà, parce que c'est joli, Guy Chamberlain de Paris, lui n'a pas de colère, mais il rend hommage et salue, il a bien raison, le cinéphile passionné qu'était Claude Jean-Philippe. Dimanche dernier, à l'Arlequin, nous dit Guy Chamberlain, dimanche dernier, un hommage lui a été rendu dans une salle comble avec des témoignages et la projection d'un film de Renoir. Tous les cinéphiles de Paris souhaiteraient que quelqu'un puisse prendre la relève, puisque dans ce cinéma arlequin, Claude Jean-Philippe animait le ciné-club le dominical. Donc voilà, bah on salue, le masque salue. C'est vrai, cet amoureux du cinéma qui était Claude Jean-Philippe, et donc on commence avec Juste la fin du monde, le film du Québécois Xavier Dolan, qui a reçu le Grand Prix au Festival de Cannes, avec, l'auditrice nous le disait, un casting 100% français, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Marion Cotillard, et c'est l'adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce, qui est mort en 95 du sida, il avait 38 ans, pièce qui est entrée en 2007 au répertoire de la Comédie française et qui vient de reparaître, je le signale, pour ceux que ça intéresserait, donc dans son texte originel, qui vient de reparaître aux éditions Les Solitaires Intempestifs. L'histoire très simple d'un fils, Louis, c'est donc Gaspard Ulliel, qui après 12 ans d'absence revient en avion dans son village natal et sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Un fils qui est écrivain et homosexuel, et dont le retour va évidemment faire ressurgir avec une violence qui atteint ici, il faut dire parfois, son paroxysme, d'anciens traumatismes, des secrets bien sûr très enfouis. Ça vocifère, ça explose. Je ne vous dirai pas si le fils repart en ayant dit ou non ce qu'il était venu annoncer à sa famille. Famille où il n'y a pas de père, mais il y a une mère, c'est donc Nathalie Baye. Tellement maquillée, on dit certains qu'ils ont parlé d'une drag queen. La sœur, c'est Léa Seydoux. Le frère, il n'est pas féroce, comment on peut dire férocissime. C'est Vincent Cassel, la belle-sœur. La pièce rapportée, c'est Marion Cotillard. Beaucoup plus effacée que dans le film de Nicole Garcia qu'on verra bientôt. Tout ça filmé en gros plan, idéal évidemment pour un huis clos hystérique. J'ai eu du mal à être ému comme je l'avais été par la pièce, ça vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Ce qui m'a gêné, c'est l'affiche du film qu'on voit partout en France pour l'instant. C'est après Mommy, le nouveau chef-d'œuvre de Xavier Dolan. C'est-à-dire qu'on pose ça comme un postulat définitif. C'est le nouveau chef-d'œuvre de Xavier Dolan. Ça vous a pas dérangé, non, les uns ou les autres, non? Non, pas du tout.
Non, mais c'est des phrases qui ne pas être d'accord, mais en même temps, c'est du marketing, ils font leur travail. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le film.
C'est une question que je pose. Ne m'agressez pas avant même d'avoir dit que le bien que vous en pensez.
Il y a quelques mois, il y a un film qui s'appelait Gravity, où il y avait comme le plus beau film de l'histoire du cinéma. Alors, tu sais,
mais le mot chef-d'œuvre utilisé par la production et non pas par un critique, ça me gêne quand même. Mais bon.
Oui, non, mais bien sûr.
Pierrot, chef-d'œuvre?
Alors, moi j'ai vu le film à Cannes et je l'avais bien aimé, et je l'ai revu là et je suis sorti enthousiaste. Je suis sorti absolument bouleversé.
On a de la chance.
Ah oui, je suis sorti bouleversé. Je trouve ça absolument magnifique ce qu'il fait. Alors, j'ai pas vu la pièce sur scène, c'est vrai. Mais son adaptation...
Tu l'as lu au moins, non?
Oui, mais son adaptation telle qu'elle est me paraît très belle parce que justement... On a l'impression, et ça c'est du cinéma, je suis pas un fan absolu de Xavier Dolan. Moi, le précédent, je l'aurais pas qualifié de chef-d'œuvre, donc celui-là non plus. Mais il y a quelque chose qui est très visible pour moi, dès les premières secondes, on sent cinématographiquement que ce type voit les choses pour la dernière fois de sa vie. On le sent. Moi, en tout cas, je l'ai senti.
Là, tu parles de Gaspard Ulliel.
Et je trouve que tout le début du film, ce regard de témoin qu'il a, de témoin muet qu'il a, et par exemple toutes les scènes qu'il a avec Marion Cotillard, qui est pour moi extraordinaire dans le film, au début, c'est-à-dire parce qu'en fait, personne ne s'entend dans cette famille, sauf, il pourrait peut-être, ce revenant, s'entendre avec la seule qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire sa belle-sœur, c'est-à-dire Marion Cotillard. Et il y a entre eux des silences, des sourires, des ententes. À un moment donné, par exemple, elle arrive et elle lui dit « Combien de temps ?» Et elle répète « Combien de temps ?» Et évidemment, lui, comme il veut dire cet aveu qu'il n'a pas encore dit à sa famille qu'il va mourir, il entend « Combien de temps il vous reste à vivre ?» Alors, c'est pas ça qu'elle lui dit. Elle dit à un moment donné « Combien de temps êtes-vous là ?» D'accord. Mais je veux dire que nous, peut-être qu'elle l'a dit, il l'a compris. À la fin, enfin pas à la fin, pardon, je dis pas à la fin, mais il y a à un moment donné un geste qui lui fait, lorsque tout est réglé, il met juste, Gaspard Ulliel met un doigt sur les lèvres en disant « Chut !» Donc autrement dit, c'est peut-être la seule qui a tout compris depuis le début, mais qui ne dit pas. Et tout le reste de la famille est engoncé dans des haines, dans des rancœurs. Vincent Cassel...
Que tu n'as pas trouvé excessive, dans l'expression, je parle. Hein.
Dans les familles, on connaît des haines aussi excessives. Surtout chez les Russes, je trouve ça absolument...
Et toi, tu as été ému parce que c'était une question que j'ai
fait... Alors, il y a deux, trois coquetteries,
moi,
comme toujours, ces choses. c'est...
Toi, t'es ému.
Ah, mais bouleversé. Bon. Bouleversé.
Daniel.
Alors, comme Pierrot, parce que je suis vertueuse, comme Pierrot est vertueux, je l'avais vu à Cannes.
Pas vertueux du tout, Pierrot.
Mais si, mais si. Et donc, j'étais sortie très dubitative, et donc je me dis, c'est pas raisonnable. Des amis très sûrs me disaient que c'était en effet le nouveau chef-d'œuvre de Xavier Dolan. Moi, mon film préféré, c'est son premier, J'ai tué ma mère. Je trouve que ça, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà. Mais bon. Et donc, je suis retournée le voir. Et effectivement, j'y ai vu des choses que je n'avais pas vues à Cannes. J'ai été d'abord bouleversée par la pièce, par l'auteur, par la part totalement autobiographique de cette histoire. Et ça, c'est bouleversant. Et j'ai été très émue par Gaspard Ulliel, par ses silences, par ses regards, par sa fragilité, par tout ce qu'il exprime. Et lui, sans faire des moulinets... Bon. Alors, je trouve qu'en effet, il y a des duos qui tiennent le coup. Des tête-à-tête où il se passe vraiment quelque chose. En effet, Marion Cotillard, moins énervante que d'habitude.
Géniale, Marion Cotillard.
Géniale, il ne faut peut-être pas exagérer. Mais qu'en effet, il y a des scènes à deux qui sont effectivement assez touchantes et qui font avancer cette histoire sans fin qui... devrait avoir une fin. En revanche, quand la famille est réunie, quand l'insupportable Cassel éructe...
Cassel,
Et là, mais alors, l'hystérie chorale, j'ai pas supporté une seconde, je ne veux pas fréquenter ces gens sont infréquentables, ils m'emmerdent, et donc, je regarde en effet les beaux yeux tristes de Gaspard Ulliel et je me réconcilie avec le film.
Michel ?
D'abord, on comprend, quand le film se termine, que Gaspard Ulliel a disparu pendant 12 ans. Il n'est pas revenu dans cette famille pendant 12 ans parce qu'on vient de la subir pendant 2 heures et je comprends très bien son absence. Alors, c'est vrai que Dolan a beaucoup de talent, inégal, même dans chaque film, à l'intérieur de chaque film, mais c'est une œuvre qui se fait, qui se constitue. J'ai pas compris, il paraît qu'il a frôlé la Palme d'Or, il a failli l'avoir contre Ken Loach. Ça aurait été peut-être, au fond, un acte assez bravache, mais méritait pas non plus. Mais j'ai, dans le même genre de cinéma, adaptation théâtrale qu'il a déjà pratiqué, puisque c'est la deuxième fois qu'il adapte une pièce, autant j'avais trouvé Tom à la ferme, qui a en commun le thème sous-jacent de l'homosexualité, j'ai trouvé dans Tom à la ferme qu'il y avait à la fois
un sentiment
de claustrophobie, mais en même temps une certaine ouverture et surtout une respiration. Dans ce film, je trouve que c'est une hystérie, mais permanente. C'est-à-dire que c'est tout le temps en gros plan. Moi, je ne suis pas très friand des dispositifs. Je sais que c'est un mot très à la mode. On admire le dispositif. J'aime pas tellement les dispositifs. Je trouve que c'est extrêmement théorique. Ce dispositif qui consiste effectivement à rester tout le temps dans cette pièce, avec tout le temps des gros plans, mais sans arrêt, et un dialogue absolument fleuve qui vous envahit, etc., où finalement je décroche, et je suis d'accord avec Daniel, on n'a pas envie d'être autant de temps avec des gens aussi peu sympathiques, ou au moins, où il n'y a même pas d'empathie. C'est un film incontestablement d'ailleurs, il dit que c'est son meilleur film. C'est toujours bon dans la promotion de dire que c'est son meilleur film parce que ça encourage les gens à y aller. Il est peut-être sincère. Mais moi, c'est le film de Xavier Dolan depuis 3 ou 4 films. Il en a réalisé 6. Disons que parmi les 4 ou 5 derniers, c'est celui que j'ai le moins apprécié à cause justement de ce jeu. Il n'y a que Gaspard Ulliel qui est vraiment très bien parce qu'il est dans une douleur rentrée. Il est avec un sourire triste. Il veut dire quelque chose qu'il ne dit jamais parce que les autres parle tellement, de toute façon, qu'il n'a même pas l'occasion de le dire. Et voilà. Mais à part ça, je trouve que le film, je ne comprends pas très bien l'hystérie critique qui correspond à l'hystérie des personnages.
Il fallait à ce point maquiller Nathalie Baye.
Mais vous aviez envie de rester avec les gens de Festen pendant 2 heures, vous ?
Non, mais...
Pourquoi on fait tomber le malheureux Dolan sous prétexte qu'ils ne sont pas sympathiques pendant 1h35 ?
Non, pas ces questions de sympathie. Ils sont quand même beaucoup moins en plus que ceux de Festen. Moi, je ne trouve pas si odieux que ça, en fait, ces personnages.
Je
trouve plutôt attachant,
même.
J'ai
jamais dit qu'ils étaient odieux. Je dis simplement qu'ils n'arrivent pas à nous faire partager. Les grands artistes vous amènent, Tchekhov, ils vous amènent à aimer des personnages souvent médiocres, etc. Parce qu'il y a une humanité. Et là, c'est noyé par les parties prises esthétiques.
Et question gros plan, on a célébré des cinéastes qui faisaient des plans fixes de 10 minutes. Je vois pas pourquoi la grammaire du cinéma interdirait de faire des films.
Non, mais
j'en, 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 j'emploie volontairement la grammaire du cinéma. Pourquoi on ne pourrait pas faire des gros plans? Ça, enfin, c'est une esthétique comme une autre.
D'autant plus que là,
La Passion de Jeanne d'Arc est un film en gros plan qui est sublime.
Je pense que l'usage du gros plan est totalement justifié. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de gageure qui est de faire un film qui est tout le temps un film choral, un film de groupe, mais de fragmenter cette famille qui ne peut pas tenir ensemble et de le prendre en charge par la mise en scène en ne les filmant jamais ensemble. Et le moindre dialogue, même quand ils sont que deux, au lieu de le filmer en champ contre champ, systématiquement ils découpent et ne filment celui qui ne parle pas qu'un amorce, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais ensemble dans le même plan. Et ça a une force. Il y a énormément de gros plans pendant les repas. Il y a quelques plans larges, mais c'est vraiment, vraiment une infime minorité. Il y a 90% de plans où il isole les personnages et même quand il les filme à deux, comme Cassel et Uliel au bord de la voiture, il fait le point alternativement sur l'un et sur l'autre pour laisser l'autre dans le flou et systématiquement annuler leur coprésence. Donc c'est un film où les personnages sont toujours seuls, même lorsqu'ils sont à deux, et cette espèce de rigueur dans la mise en scène, moi je la trouve très impressionnante et très admirable. Après, la question de l'émotion, c'est très subjectif. Le Absolument. Film est peut-être moins sentimental que Mommy, c'est-à-dire qu'on est moins embarqué comme ça tout de suite par
le
film.
Moi j'étais ému dans Mommy.
Mais moi, je suis bouleversé par celui-là, mais presque dans un second temps. C'est-à-dire qu'à la fin, tout à coup, c'est monté. Tout à coup, il y a comme une décharge, en fait. Et effectivement, le film est plus riche, parce que la toxicité de cette famille, elle est vraiment très grande. Donc, il y a quelque chose d'aride, même, dans le dispositif, et dans la peinture de ce malaise familial. Mais à la fin, on est totalement bouleversé. Uliel est magnifique, mais je pense qu'il est magnifique parce qu'il est tout le temps en retrait, parce qu'il fait rien. On a le sentiment quasiment d'entendre le sang couler dans ses veines, tellement il donne accès à une intériorité.
Ah oui.
Mais je pense que ça existe aussi parce que les autres sont en sur-régime et qu'il y a quelque chose d'un point de vue orchestral de très abouti entre le surjeu de tous ses partenaires et la manière dont il est comme une espèce de puits comme ça de silence et d'intériorité qui leste le film. Donc moi je trouve vraiment que je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre parce que je pense que Xavier Dolan n'est pas un cinéaste à chef-d'œuvre, c'est qu'il vise pas la perfection. Il essaie des trucs tout le temps, il y a des scories, il y a des choses maladroites, mais en même temps il y a une sincérité, une innocence, même quand il utilise des clichés, il y a une manière naïve et totalement spontané de le faire, qui, moi, je trouve, enfin, m'emporte absolument.
En tout cas, on lui aura réservé un traitement de chef-d'œuvre, vu le temps qu'on lui aura consacré. Il nous reste quelques minutes pour les autres films. Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui, dans le public du studio, Sacha Guitry.
Bonsoir. Moi, je serais pas tout à fait de l'avis de Pierre, mais je suis un peu moins sévère que Michel et Daniel. Je l'ai vu également. J'ai tout de suite pensé à Festen, évidemment. Mais moi, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est l'excès de Nathalie Baye. Alors, j'ai pas pu supporter Nathalie Baye. C'était vraiment, je me demande, qu'est-ce que c'est que cette mégère? Et puis, la façon dont elle est maquillée, grimée, cette perruque et tout, c'est épouvantable.
En même temps, c'est le rôle que Dolan lui a attribué.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'était vraiment excessif.
Hein.
La petite Léa Seydoux, alors, j'adhère pas du tout à Léa Seydoux. Ce que j'ai trouvé un peu dérangeant, c'est la façon dont les phrases ne sont jamais terminées. Marion Cotillard, elle commence, et puis ça s'arrête jamais. Mais Gaspard Ulliel est absolument remarquable.
Merci pour cette intervention. D'autres sur ce film de Dolan? Non. Cézanne et moi, le nouveau film de Daniel Thompson avec Guillaume Gallienne dans le rôle de Cézanne et Guillaume Canet dans celui de Zola, tous deux pareillement barbus, avec aussi Alice Paul, Déborah François et Sabine Azéma. Un film d'1h53 construit en flashbacks successifs qui raconte comme un double biopic l'amour-haine qui unit depuis leur adolescence à Aix-en-Provence et jusqu'à leur conquête de Paris, le peintre et l'écrivain, un peintre qui va manger de la vache enragée, alors que l'écrivain, tout le monde le sait maintenant, marié à une femme que Paul a aimée avant lui, va vite accéder à la fortune et à la gloire, et puis signer en 1886 ce livre, l'œuvre qui a tellement blessé Cézanne. J'ai eu l'impression de regarder un long livre d'images, images d'ailleurs bien léchées, hein, ce qui m'a encore plus surpris en sortant de Spinsum, quand même, c'est que je l'ai vu sélectionné pour les Oscars. C'est le film qui va représenter, enfin, un des c'est quatre films qui est censé représenter la France.
Il y en aura un seul à la fin.
Il y en aura un seul. Mais enfin, ça m'a troublé. Alors, Jean-Marc.
Oui, en effet, c'est un drôle de choix. Je ne sais pas si c'est le nouveau chef-d'œuvre de Daniel Thompson. Non, je trouve le film vraiment atterrant. D'une part, c'est vraiment le film est absolument incapable de montrer la création au travail. C'est-à-dire que le travail de la peinture, comment un être peut être
c'est
sensible
pas le Van Gogh
à la lumière,
de Piala,
à la forme. Voilà. On va pas dégainer tout de suite Van Gogh de Piala, mais quand même, à un moment donné, il faut comparer. Et vraiment, le film est inapte à montrer comment quelqu'un est traversé par l'espace autour de lui, la lumière, et en fait quelque chose. C'est vraiment très très mauvais. Je pense que ce que fait Guillaume Gallienne, je pense qu'il est en concurrence avec Benoît Magimel dans la série Marseille pour le plus mauvais faux accent. De province qui soit.
Il n'y a pas que l'accent. Qu'est-ce qui lui est arrivé à...
Non, tout est dérégulé
bon
dans son jeu. Il y a quelque chose
d'embarrassant
tout le temps.
Ah oui.
Il est vraiment très mauvais. Du coup, Canet s'en sort plutôt bien. À côté, il est assez sobre. Mais il y a vraiment une gêne terrible à voir Guillaume Gallienne cabotiner comme ça, être tout le temps à côté de ses pompes. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Puis le scénario, c'est comme une fiche Wikipédia mais qu'on aurait mélangée. C'est-à-dire que le film passe d'une époque à l'autre, une vignette sur la commune, une vignette sur le salon des refusés, mais dans le désordre, pour faire moderne sûrement, et c'est totalement arbitraire. C'est vraiment un film effroyable.
Michel,
on attend tellement ça de la critique face à des films de ce genre
je pense sincèrement.
Zola disait très justement du tableau impressionniste, c'est un coin de la nature vu à travers un tempérament. Et là, il n'y a pas de tempérament. Incontestablement, je suis tout à fait d'accord que le film n'est pas du tout d'auteur, c'est pas un film de personnalité. Je pense que Daniel Thompson ne réussit pas ce que... Il y a un film qu'on va voir bientôt, qui est le film de Stéphane Brisé sur la Normandie au XIXe siècle. Elle ne réussit pas à rendre palpable, sensuel, avec vraiment le caractère physique de la nature qui est saisi par sa caméra, à la différence justement de Cézanne. Mais en même temps, je pense que le film, pour quelqu'un de 16-17 ans qui ne connaît pas du tout cette histoire, qui est quand même une histoire extraordinaire, unique dans l'histoire de l'art. Il n'y a aucun exemple d'un très grand peintre et d'un très grand écrivain qui, à ce point, se sont connus, fréquentés. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai parce que on vient de publier chez Gallimard la correspondance croisée par Henri Mitterrand qui les a réunis et on a redécouvert dernière lettre un an après l'œuvre. Qui soi-disant avait mis fin à leur amitié, pas du tout. Un an après, Cézanne écrivait encore à Zola pour le remercier d'un roman qu'il lui avait envoyé. Donc, je pense que c'est un film tout de même qui est très très recherché. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de. Alors, je suis d'accord sur le personnage de Gallienne. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un bon film. Je suis pas en train Je suis pas en train. Non, mais ce que je veux dire de tomber à ce point, le haro, c'est tellement facile sur ce genre de biopic. C'est toujours le même genre de choses. Et je trouve que c'est un film estimable. C'est pas un mauvais film. C'est un film moyen, très moyen, mais je suis sûr pour que le spectateur lambda qui va le voir, il sera pas fou de rage comme peuvent l'être les critiques.
D'abord,
c'est tout ce que j'ai à dire.
D'abord, c'est notre métier, et puis deuxièmement, sur ce même sujet, on aurait pu faire aussi un beau film.
Mais bien sûr, il y a des films magnifiques. Il y a le Van Gogh de Piala, justement, qui ne parle pas tellement de l'acte de peindre.
Daniel,
on ne voit jamais Van Gogh peindre.
Là où je rejoins Michel, c'est qu'en effet, ce film est ambitieux. Elle a bossé, elle a fait des recherches.
Elle manquerait
plus
que ça, oui.
Mais
ça a coûté de l'argent, oui.
En effet, elle a essayé. En effet, elle s'est plantée. Mais
tu es pire que moi,
dire...
en fait.
Oui. Non, mais bon, les costumes de Catherine Le Terrier sont magnifiques, les paysages. La montagne Sainte-Victoire, on la voit bien.
Les paysages sont pas vivants.
Bon. Non, mais bon, moi, je peux pas mépriser. Simplement, il y a quand même des choses très graves. D'abord, vraiment le mélange temporel est complètement raté. Ça va, ça vient. Bon, le redoutable accent du midi fugitif de Guillaume Gallienne, c'est extraordinaire. Parce que quand même, quand on prend l'accent du midi, on le tient. Ben non, d'une scène à l'autre, il l'a plus. C'est quand même très curieux. Et alors, à la fin, on se dit, mais quoi ? Mais ça tourne tout de même au bal des postiches, quoi. On voit plus que les barbes qui poussent, les barbes un peu plus fournies, un peu plus grises, un peu plus... Et donc, on regrette, on se dit, c'est beaucoup d'efforts pour quelque chose qui n'aboutit pas. Et voilà, mais
je leur veux davantage, pour le coup, de transformer des bons comédiens en comédiens médiocres.
Non, Guillaume Canet s'en sort, les femmes sont pas mal, mais le mélange temporel est insupportable, parce qu'on sait plus. Puis en plus, il y a quand même des choses, tout à coup, il y a le salon des refusés, alors là, c'est un bordel absolument incroyable. Puis tout à coup, il y a, oh, le petit Auguste, c'est Renoir, oui, mais évidemment, c'est un peu risible, mais il y a une tentative, voilà, il y a une tentative.
Bon, Pierre?
C'est sidérant que personne ne soit aperçu très très vite qu'on courait à la catastrophe, quoi, dès le scénario.
Tu parles parce de qu'il a des producteurs?
Oui, des producteurs, de Tournami, quand même beaucoup d'argent. C'est peut-être pour l'étranger, parce que le Renoir de Gilles Bourdeau, ce qui était très très bien, lui avait bien marché à l'étranger, donc on a dû se dire, ah là là, Zola, Cézanne...
C'était bien, pas très très bien, c'était bien.
Plutôt bien, alors.
Académique, académique.
Académique.
Moins que ça, en tout cas, parce que là, le problème...
Mais non, c'est pas académique,
ah, si
c'est seulement
pour moi, c'est, moi, c'est ce que j'appelle, moi, académique. C'est-à-dire que les premières scènes où on voit donc très très tard, on voit sortir de la calèche le vieux Cézanne qui arrive là, et il s'embrasse et tout. On sent, comme tu as dit, Daniel, les barbes, les postiches.
C'est une dramatique
les...
télé. C'est une dramatique
Oui, mais enfin, oui, mais on est au cinéma. Je veux dire, je sais pas. Et alors, en plus, c'est sans arrêt répétitif, sans que ça, que la répétition soit utile. C'est-à-dire qu'ils s'engueulent, ils s'engueulent pas, ils se réconcilient, ils se jettent dans les bras quatre fois l'un de l'autre. Là, tout ça n'a absolument aucun intérêt. On entend quand même des dialogues du genre Cézanne qui dit à Zola, j'aimerais peindre comme tu écris. Enfin, quand même, quoi. Enfin, j'aimerais peindre comme tu écris. C'est quand même un peu difficile.
Bah oui, Cézanne, il arrête pas de crever ses toiles. Alors évidemment, il est pas content.
Bah, il est pas content. Mais on a bien compris qu'il était pas content. Et alors, non, mais alors, quant à Gallienne, bon, qui en fait trop, et Guillaume Canet, alors lui, c'est dans le genre, je ne fais rien, mais regardez comme je ne fais rien, quand même. Alors, il est pas mal. Mais enfin, l'association des deux. Et puis alors, aucune sensualité. Mais alors, rien. Quand il y a, par exemple, des jolies filles qui se baignent. Enfin, on pense, en effet, aux toiles impressionnistes. Mais alors, on ne ressent rien, ni d'émotion, ni de sensualité, ni rien. C'est figé. Voilà. C'est académique parce que figé.
Cézanne et moi de Daniel Thompson. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film? Non. Brooklyn Village, le sixième film d'Ira Sachs qui a reçu le Grand Prix au Festival de Deauville, où Daniel était juré du prix de la critique.
C'est Frédéric Mitterrand qui était...
Et c'est avec deux jeunes garçons que j'ai trouvé étonnants, Théo Taplitz et Michael Barbieri. D'ailleurs, mon conseil, c'est de retenir leur nom. Bref, une famille de Manhattan très bobo. C'est presque un pléonasme, d'ailleurs. S'installe à Brooklyn dans la maison dont elle vient d'hériter. Petit problème au début, sans importance, au rez-de-chaussée, transformé en local commercial, travaille une couturière latino à qui, de son vivant, le père des nouveaux propriétaires avait consenti le paiement d'un loyer dérisoire. Et ce loyer, eh bien, le couple de cadras veut le réviser, mais à la hausse. La locataire, elle n'a pas d'argent. Et entre-temps, surtout les deux ados des deux foyers, Jake et Tony, sont devenus les meilleurs copains du monde. Un film scénarisé exactement comme une pièce de théâtre, pour le coup, puisqu'on ne quitte presque jamais la maison, et qui montre très bien l'embourgeoisement des grandes villes, ce qu'on appelle maintenant la gentrification, ici New York, mais je crois que c'est pareil à Paris, et dont les enfants sont les victimes collatérales. D'ailleurs, le titre original du film, c'est « Little Men »,
qui est un meilleur titre que
Brooklyn Village, qui a été fait, on voit bien, pour la galerie. Michel,
c'est un très joli film. Ira Sachs est un cinéaste indépendant américain. C'est son, je crois.
Love is Strange était un très joli film.
Love is Strange, c'est sur un couple de vieillards homosexuels séparés par la pénurie de travail, etc. Ici, ce que je trouve très très beau dans ce film, alors évidemment, le père d'un couple, enfin plutôt le mari d'un couple âgé, qui sont les parents d'un de ces jeunes garçons, jouent dans Oncle Vanya, et je trouve que c'est vrai que sans tirer trop sur la corde, c'est très tchékovien, c'est-à-dire qu'il y a un amour pour des personnages qu'il sait nous faire aimer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les deux mondes qu'il nous décrit, c'est-à-dire le monde de la jeunesse, ces deux garçons dont l'un a des tendances homosexuelles, qui est très amoureux de son camarade, sans que ça débouche sur rien.
C'est pas du tout appuyé,
non,
ça.
Non, pas du tout. Comme chez Tchékov, tout est suggéré, mais qui eux sont dans une sorte de liberté, ils se promènent dans les rues, c'est toute la jeunesse avec sa liberté, etc. Et les adultes qui sont dans un climat presque claustrophobique, effectivement de gentrification, qui ne parlent que de problèmes d'argent pour assurer à l'épouse, on va augmenter le loyer de sa femme.
Le père est un acteur un peu à la ramasse, et
voilà,
puis...
Et la mère a des problèmes d'argent aussi, donc pour l'aider, on va augmenter le loyer de cette chilienne qui vit à côté. Tout cela est merveilleusement contrasté, ça nous parle de la société d'aujourd'hui, mais aussi des générations, etc. C'est un film d'une grande chaleur humaine, une grande sympathie pour les personnages. J'ai trouvé que c'est vraiment une très belle réussite.
Jean-Marc ?
Oui, il y a vraiment quelque chose d'exemplaire dans la façon de traiter un fait sociétal, donc la gentrification, comme tu le disais, vraiment au niveau de personnages et en faire comprendre le fonctionnement avec une très très grande clarté d'exposition et d'un point de vue incarné, du point de vue de personnage humain. Et il y a une bienveillance totalement partagée sur tous les personnages. C'est le mécanisme social qui est impitoyable, qui est extrêmement cruel, mais chaque personnage est extrêmement attachant. Y compris les bourgeois new-yorkais qui vont expulser une femme beaucoup plus défavorisée qu'eux, avec des états d'âme, mais malgré tout, ils vont le faire.
Mais ils le font, mais on sent qu'ils le font aussi à contre-cœur. Enfin, c'est pas dans leur nature.
Ils sont chassés de Manhattan, ils ont du mal à vivre à Brooklyn. C'est-à-dire, on voit la dégradation économique des new-yorkais.
C'est un film qui est tout en nuances et qui a vraiment une délicatesse dans sa palette qui est vraiment, c'est incroyablement subtil. Et en plus, il y a une très très grande rigueur de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est vraiment tiré au cordeau sans que ça soit jamais rade. C'est-à-dire que il y a une douceur dans chaque plan qui rend le film jamais raide, alors que c'est extrêmement composé, extrêmement tenu, extrêmement rigoureux.
Pierre ?
Ah oui, tout à fait d'accord. C'est un très, c'est un petit film.
Mais il ne faut pas que les gens attendent. C'est pas
Little Film.
Mais vaut mieux aller voir ça que Bénure, quoi. C'est
voilà. Franchement, tu as résumé.
Pertinent.
Non, mais parce que c'est un petit film, c'est vrai que c'est.
Non, mais c'est un petit film.
Il n'y a pas de gros moyens.
En effet, Michel a parlé de Tchekhov. C'est comme une nouvelle de Tchekhov. Évidemment, le père joue Tchekhov. Mais ce qui est très frappant, c'est en effet ce regard très tendre sur tout le monde, parce que les bourgeois, enfin c'est des bourgeois, c'est pas des bourgeois d'ailleurs.
C'est des bobos.
C'est des bobos. Simplement, voilà, le monde est trop cruel actuellement pour qu'on satisfasse le vœu d'un vieil homme qui aimait cette femme, qui lui avait donné accepté de louer pour un prix dérisoire, comme tu l'as dit, ce magasin.
Et dire qu'il aimait beaucoup, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé
entre
eux. Hein.
Oui, voilà, justement.
On imagine quand même.
Il y a pu y avoir une histoire.
C'est comme l'homosexualité, peut-être, de l'adolescence. C'est pas dit, c'est peut-être, mais, et là, l'amour qu'il éprouvait pour elle. Mais en tout cas, il avait promis quelque chose, et maintenant, l'époque est trop dure à New York et ailleurs pour satisfaire. Avant, on aurait dit, bah oui, pour faire plaisir, pour respecter le vœu de mon père, je laisse. Eh ben, c'est plus possible.
Oui, parce qu'on peut, on imagine le même scénario à Paris ou à Londres.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Il y a un plan de coupe sur une femme mélancolique de Fantin-Latour à un moment dans le film, et ça fait penser évidemment à l'exposition en ce moment au Luxembourg. Mais justement, ce plan sur Fantin-Latour, c'est tout l'intimité de cette peinture du 19e siècle que n'a pas capté Daniel Thompson et qu'on retrouve dans
Et la cruauté très légère, c'est ça. C'est un destin de deux copains que les adultes vont séparer et qui n'en demandaient pas tant, quoi, en quelque sorte. Mais c'est pas tragique, c'est triste.
Non, c'est pas tragique, c'est tendre, c'est cruel et doux. Et la vitalité, c'est ces deux garçons. Voilà, ces deux garçons qui font du roller dans les rues, qui sont libres. Et il y a un tournant dans le film où tout le monde, comme disait Renoir, hein, tout le monde a ses raisons et tout le monde a des soucis d'argent. Et les mômes se rendent compte que ça va mal tourner et que Léonore, qui est jouée merveilleusement par Paulina Garcia, la couturière latino qui résiste, que ça va mal tourner, que probablement elle va être expulsée ou peut-être pas, mais en tous les cas, les mômes sont horriblement fâchés. Et il y a un tournant dans le film magnifique, les mômes refusent de parler à leurs parents. Alors là, c'est extraordinaire.
Ils font de la résistance.
Voilà,
la résistance.
C'est comme les mômes dans la cour de récréation. Je te parle plus. Et ben, je te parle plus, mon père et ma mère, parce que voilà. Et vraiment, je trouve que ce sont même pas des personnages, ce sont des personnes. Et ça, c'est Ira Sachs. C'était Love is Strange aussi. C'était des personnes auxquelles on s'attachait et on s'attache profondément à ces gens.
Donc, ne vous attendez pas à un immense film, mais c'est voilà. Très émouvant, très juste. Et c'est donc Brooklyn Village de Ira Sachs, l'autre version américaine du monde. Eh bien, c'est Blair Witch d'Adam Wingard qui fait suite au projet Blair Witch de 1999, où on voyait déjà disparaître donc des étudiants de cinéma très importants dans une forêt hantée, un film en fausses images amateurs, tout le monde le sait maintenant, qui a lancé cette mode du found footage. Qu'on a depuis surnommé le found footage de gueule. Et cette fois, c'est la version 2016 du procédé, avec évidemment cette haute technologie qu'adore Michel, puisque c'est des images d'oreillettes caméra, de GoPro et même de drones. quant à l'histoire, eh bien, le frère d'une victime du premier Blair Witch. Il y en a eu un deuxième. C'est le troisième. Hein. Mais donc...
Et qui était tellement mal accueilli par tout le monde.
Mais il faut dire que celui-là... Le frère de cette victime du premier part avec un groupe de copains dans la forêt du Maryland pour retrouver sa sœur, donc plus de 15 ans après les faits. J'ai eu si peu peur, pour un film d'horreur quand même, que je me suis endormi. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Daniel.
Ah oui, alors, moi, j'avais un...
T'as eu peur ou pas ?
Ah non, mais moi, j'avais un souvenir fantasmé du premier Blair Witch. Je me disais, ah ouais, j'ai eu peur. Alors, je vais peut-être encore avoir peur. Et alors là, effectivement, je voulais faire ma maline. Bah oui, mais je voulais faire ma maline et dire fin de footage de gueule, mais l'Obs l'a fait avant moi. Alors donc très bien. Alors moi, je peux vous donner le résumé, mais véritablement réel des dialogues de ce film. Oh shit! Oh my god! Oh fuck! Voilà. Ça, c'est le dialogue. Une fois ça, c'est fait. Alors, de voir pendant... Ça ne dure pas trop longtemps,
non,
heureusement.
C'est, hein, c'est court, hein, c'est court. Hein, c'est 1h30.
À peine. Alors, pendant 1h25, on voit une caméra, un téléphone portable, un drone qui trébuche, qui se vautre dans des fourrés. Et c'est tout. C'est absolument tout. Et on attend que ça se finisse, quoi. Voilà, moi, j'ai pas dormi, mais vraiment, j'ai regardé ma montre. Et on n'a pas peur, parce que oh, fuck, oh, my God, ils voient des choses qu'on voit pas, hein. C'est un bordel de buissons mélangés.
Et la forêt est à peu près la même que celle du premier. Ça n'a pas beaucoup changé.
Oui. On appelle ça une séquelle.
Pierrot.
Bah, dans le premier, je crois qu'il y avait il y avait plus de souffle. Là, c'est plus brutal. Il y a des arbres qui tombent. Donc voilà, ça fait plus de bruit. Mmh. Et donc, ça fait plus. Donc, ça permet aux héros de crier, en effet, oh fuck, etc. pendant plus souvent. Non, mais je crois que ce type. Moi, j'ai pas eu de chance. Parce que ce type de film.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Je pense qu'il faudrait le voir dans une salle pleine. Avec des gens conquis d'avance.
Qui était à 10h du matin dans une salle vide.
Alors, qui hurle. Et ça, voir hurler, à mon avis, les voisins.
Et tu l'as vu seul?
Je l'ai vu dans une salle du 13e arrondissement, cet après-midi, où on était 11. Alors évidemment,
T'as eu peur.
Mais j'ai pas eu peur parce que ça me manquait les cris dans la salle. Alors du coup, et comme dans 11, et au fur et à mesure des minutes, on devenait 10, puis 9, puis 8, et je dois dire quand on a 3, je me suis dit, c'est peut-être temps de partir, et je suis parti avant.
T'inquiète pas,
avant de sauter. Voilà. Mais je pense que c'est ça.
Je te raconterai la fin, mais tu n'as rien manqué.
Je crois que ce type de navet, il faut le voir en sachant que c'est un navet, avec 300 personnes qui hurlent en même temps que là, et là, ça peut passer. Sinon, c'est insupportable.
Non, mais c'est pas la peine, t'as pas loupé beaucoup de choses à la fin. Malheureusement, la fin laisse.
Espérer.
Qu'il y ait une suite.
Il y aura un troisième ou quatrième, voilà. Ça c'est évident. Michel ?
Alors ce qui est étonnant, je me suis demandé pourquoi je n'ai pas eu peur une seconde pendant 1h30. Je pense que c'est explicable par là aussi le dispositif. C'est-à-dire, le dispositif, ça consiste à nous montrer des trucs vidéo.
Tu parles de la grammaire du film.
De l'image grattée, des noirs d'un seul coup, c'est-à-dire nous faire croire à l'authenticité d'un reportage. Alors qu'on pense tout le temps que c'est du cinéma. Alors que les films d'épouvante comme L'Exorciste ou comme L'Invasion des profanateurs de sépulture, La Maison du Diable, Psychose, qui étaient des films extrêmement classiques, peut-être pas Psychose autant que ça, mais néanmoins très classique, on avait très très peur. Et là, pour rechercher une sorte d'hyper-réalisme, on nous rappelle tout le temps qu'on est au cinéma, donc on n'a plus peur du tout.
Je vous rappelle quand même que le premier a rapporté une fortune colossale.
Planétaire.
Le rapport coût-production et bénéfice était hallucinant.
J'ai noté, mais ça paraissait tellement énorme que je n'ai pas osé le dire.
Celui-là marche beaucoup moins bien. Hein. Je pense que le miracle n'aura pas lieu deux fois.
Il marche encore moins bien après ce soir.
Mais il y a vraiment deux soucis. Le premier, c'est que...
Il y en a plus que deux.
Il y en a deux dont le film ne se remet pas.
Pour moi, Jean-Marc.
Le premier souci, c'est que le film devrait confronter le genre de Blair Witch aux technologies nouvelles. Il ne le fait pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment le même procédé que le premier. Il y a un drone, mais il est gassé tout de suite. Oui. Ils n'ont pas de réseau, donc il n'y a plus de GPS. Et tout ce qui serait relancé par les nouvelles technologies est annulé. Et du coup, on a vraiment l'impression de voir le même film qu'il y a 17 ans. Et en plus, c'est à la fois une suite, mais c'est aussi un remake. C'est c'est-à-dire qu'on passe exactement, mais exactement, par les mêmes stations dramatiques. Ouais. Ils se réveillent dans une tente, ils se mettent à courir, il y a des espèces de drôles de symboles devant la tente, puis le jour ne se lève plus. C'est vraiment le décalque du premier, et donc c'est vraiment d'une prévisibilité dramatique confondante.
Blair Witch, Adam Wingard, il n'y a pas, j'imagine, de réaction sur ce film. Clash, c'est après Les Femmes du Bus 670, le deuxième film du jeune Égyptien de 38 ans, Mohamed Diab, qui était présenté à Cannes à un certain regard et que je déconseille, je le disais déjà dimanche dernier, aux claustrophobes pendant une heure et demie, Diab, qui est caméra à l'épaule, mais lui vraiment caméra à l'épaule, c'est pas comme Blair Witch, nous enferme dans un fourgon de police, on est au Caire, en pleine guerre civile, et ça se déroule pendant l'été 2013, après que l'armée du maréchal Al-Sissi a destitué le président islamiste Mohamed Morsi. Et dans ce panier à salade de 8 mètres carrés, totalement étouffant, avec le soleil en plus, les flics ont jeté une vingtaine de personnes. Alors, il y a des frères musulmans, il y a des religieux purs et durs, il y a des partisans du coup d'État militaire, des commerçants, un SDF et deux journalistes. C'est les premiers d'ailleurs à entrer dans le fourgon, deux journalistes d'une agence de presse, dont un est égypto-américain. Ils sont entassés, assoiffés, bientôt au bord de l'évanouissement. Et en même temps, ça ne les empêche pas d'en venir aux mains entre eux, loi islamiste contre loi martiale. Et pendant que dehors, étrangement, moi j'ai rarement eu le sentiment de sentir si bien le dehors sans le voir, autrement qu'à travers les barreaux. Dehors, c'est les snipers qui tirent et le sang qui coule. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ?
Moi, je suis assez partagé. Je trouve que le film est assez efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le sentiment d'être plongé dans le contexte historique, avec un sentiment quasiment de direct et de très grande véracité. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas plus d'invention, de solutions de mise en scène pour filmer ce huis clos. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le temps caméra à l'épaule. Il y a une contrainte qui est très forte. Et je trouve que le film vraiment répond à cette contrainte à minima, de la manière presque un peu paresseuse et du coup assez répétitive. Malgré tout, c'est assez incarné, c'est assez fort, les acteurs sont très bons, et en même temps, les personnages sont quand même toujours un peu les porte-parole camp politique ou religieux.
Ils sont un peu archétypaux,
mais... représentent. Et on parlera peut-être tout à l'heure du film de Rafi Pitz, pour moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que les personnages existent au-delà des idées dont ils sont les véhicules. Là, je trouve que le film est démonstratif tout le temps. C'est pour moi sa
limite.
Démonstratif,
mais efficace. Enfin,
mais oui, à part la fin, je suis d'accord, assez efficace.
Mais cette scène, par exemple, où on voit l'autre, un autre fourgon, où là, pour le coup, ceux qui sont à l'intérieur sont en train de crever, tellement ils sont entassés, c'est terriblement efficace. Michel ?
Non, moi, alors là, c'est plutôt le film qui, rétrospectivement, m'a rendu plus indulgent pour le film de Xavier Dolan, parce que là aussi, il y a un dispositif...
Il n'y a aucun rapport.
Si, il y a une hystérie pendant 1h30, il y a un dispositif formel extrêmement rigoureux, c'est-à-dire tout le monde est dans ce fourgon. D'ailleurs, le metteur en scène est conséquent, puisque le précédent, c'était des femmes qui étaient dans un bus, qui étaient toutes enfermées dans un bus. Cette fois-ci, j'ai trouvé ce film avec aucun point de vue sur la situation politique. Je vois pas quel est exactement le regard qu'il porte là-dessus, sinon des affrontements hystériques pendant 1h30 ou 1h45. Franchement, je trouve ce film absolument dénué, pour moi, de tout intérêt. Et effectivement, je trouve que chez Dolan, au moins, il y a des personnages qui existent. Là, je n'ai pas du tout vu ça. J'ai vu un artifice spectaculaire et qui n'aboutit à rien.
Daniela ?
Non, moi, j'ai été assez passionnée par le dispositif, justement. Et ce huis clos, parce que c'est vraiment un huis clos, a ses limites. Il y a un moment où, effectivement, chacun s'est présenté, chacun a dit ses raisons, et on est un peu lassé. Mais j'ai été extraordinairement frappée par, effectivement, ce qu'on devine de l'extérieur, à travers
ou
les barreaux,
ce qu'on voit parfois,
et ce sentiment aigu, et qu'a, je crois, aussi le réalisateur, c'est que la situation d'Égypte nous échappe complètement.
Mais c'est ça le point
voilà.
de vue.
C'est ça son point de vue. Et donc, il nous fait partager cette.
Et puis, il est contre les deux extrêmes, voilà. qu'ils soient religieux ou militaires.
Ça m'a touché, ça m'a intéressé.
Pierrot.
Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a deux films. En fait, il faut dire, le mec est quand même très courageux parce que son premier film, c'était
lutter contre le harcèlement sexuel des femmes. Et celui-là, il y a un point de vue très net, c'est en effet de montrer le chaos dans lequel est l'Égypte.
Et je crois que tout sa situation n'est pas facile pour l'instant
en Égypte. Non, mais, alors, voilà, donc c'est audacieux, c'est courageux et tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous, tout ce que l'on voit du fourgon de l'extérieur me paraît très, très intéressant. Le petit problème simplement de mise en scène, c'est, je pense qu'il n'est pas très doué pour filmer à l'intérieur du fourgon ce qui se passe. Je pense qu'il sait pas, il sait pas. C'est très difficile de filmer un huis clos avec 20 ou 22 personnages qui sont là.
Et qu'ils aient vraiment 8 mètres carrés, hein.
Et voilà. Donc c'est très compliqué à faire. Il y a des gens comme Altman qui savaient le faire ou d'autres. Là, il sait pas. Mais ça reste un film très généreux sur ce qu'il est et audacieux sur ce qu'il dit. Cinématographiquement, c'est nettement moins évident.
Je vous presse un peu parce que je voudrais qu'on évoque un dernier film. Donc c'est Clash de Mohamed Diab et c'est donc Soy Nero. Le cinquième film de Rafi Pitz, qui est cet Iranien arrivé en France au lendemain de la révolution islamique, qui a vécu à Berlin, à Londres, avant de travailler à Paris, notamment avec Carax et avec Doyon. Et Soy Nero, c'est un film justement sur le passage des frontières, avec un personnage qui est très bien, qui est joué par Johnny Ortiz, donc Nero, qui a 19 ans, qui est né au Mexique, qui a été expulsé aux États-Unis, où il a grandi et où il revient, mais de manière clandestine. Il va tenter de vivre à Los Angeles avec son frère aîné, et puis ça va pas marcher. Et donc il s'engage dans l'armée des Green Cards, ces étrangers auxquels, après la bataille, on promet la naturalisation. Et le film est divisé en deux. Il y a une première partie très stressante, qui est vraiment le road movie du fugitif, et puis une deuxième partie, elle, au contraire, statique, et c'est le soldat qui guette l'ennemi, toujours d'ailleurs invisible. Et entre les deux, toujours cette même galerie de grilles, de portails, de checkpoints, de murs. Bref, un film sur les frontières que j'ai trouvé très fort. Un peu long, 1h57. Vous me dites pas trop longuement ce que vous en pensez, Pierre ?
Voilà, là il y a une mise en scène. Voilà, là il y a un regard, il y a une mise en scène.
Puis il y a des idées de mise en scène.
Il y a des idées. La première partie, surtout moi, m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que l'arrivée de ce type, les rencontres qu'il fait, la façon dont l'Amérique est dépeinte dans cette artificialité cruelle, c'est-à-dire qu'on lui fait miroiter des choses et puis naturellement qu'il ne tiendra jamais. Lorsqu'il arrive dans une superbe demeure où son frère soi-disant a réussi, puis on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça, je trouve que c'est conduit.
Il n'en est que le gardien. Ça, on peut le dire, c'est pas la fin. C'est un tiers du film.
Mais voilà.
Admire la prudence de Pierre.
Oui. je trouve que c'est magnifique. Et alors, la fin est, enfin, toute la deuxième partie que tu as décrite est très bien. Mais voilà. Là, on sent un propos, une forme. C'est un très, très, très beau film.
D'ailleurs, on passe du premier au deuxième film, avec vraiment une sorte de coupure, quoi. C'est comme si c'était deux films différents. Le seul lien,
Mais le vieil américain aussi, qu'il rencontre au début, est absolument étonnant. Non, c'est un film vraiment qu'il faut voir.
Daniel.
Ah oui, moi je trouve que, en plus, c'est un personnage. Soy Nero, je suis Nero. On le suit. Et il poursuit, il court après ce rêve.
Il a une bonne tête.
Il court après le rêve américain. Et la seule chose pour avoir cette green card, pour rester américain, c'est de se plier au Dream Act, l'acte du rêve, ce qui est vraiment totalement ironique. Et on ne le quitte pas. Et c'est vrai que l'effervescence américaine décrite de façon extrêmement brillante, et tout à coup on est au milieu de nulle part, dans cette frontière.
Oui, qu'on imagine être le Moyen-Orient, sans difficulté. Hein.
Et voilà, et le rêve devient une sorte de cauchemar immobile, et c'est vraiment très fort.
Oui, Michel.
Avec Brooklyn Village, les deux très bons films de cette quinzaine. C'est un film remarquable.
Il y en a un autre.
Enfin, pour moi, pour moi, c'était deux films, par la mise en scène.
Et le Daniel Thompson, quand même.
Par la mise en scène, parce que justement, il y a une très grande rigueur chez Rafi Pitz. C'est un exemple parfait, ce film. Comment, sur un terrain très balisé, qui a été traité multiples fois,
le
franchissement de la frontière par un Mexicain. Oui. On en a vu 15 des films de ce genre.
Mais pas les green cards.
Et comment, ensuite, chaque fois, on va de surprise en surprise. Ce frère, qui est probablement un trafiquant de drogue, avec une nana pas possible, qui est avec lui dans cette immense demeure. Ce type qui le prend d'autostop, qui est le futur électeur de Trump. Un personnage absolument incroyable.
incroyable.
C'est une sorte de western en même temps, c'est-à-dire qu'il passe à travers le film de genre en le renouvelant complètement et en renouvelant un sujet qui ne devient pas un sujet à thèse, qui ne devient pas un film sur un fait de société, mais véritablement incarné avec un personnage extrêmement passionnant dans des situations toujours inattendues.
Jean-Marc.
Oui, c'est un film qui dit des choses très fortes, mais sans jamais être discursif, sans jamais être verbeux, avec vraiment des visions, celles d'un monde quadrillé qui s'incarne par le cinéma. Et il est aussi très fort pour faire durer des scènes. C'est-à-dire que non, le film se réduit à assez peu de scènes, finalement, qui sont très, très dilatées. Et il y a vraiment une architecture.
Dans la première partie, il y a plus de...
Ah, quand même, la scène de la villa est très longue. Oui. Il y a des dialogues dans le checkpoint. Oui. Il y a un très long dialogue entre deux soldats afro-américains qui discutent pour savoir si les rappeurs de la côte Est ou les rappeurs de la côte Ouest sont meilleurs les uns que les autres. Il fait vraiment durer des dialogues avec une tension tout le temps maintenue. C'est vraiment un film de cinéaste très, très prometteur.
Absolument. Donc, on vous conseille tous d'aller voir Soy Nero, le cinquième film de Rafi Pitz. On a tout à fait le temps maintenant de conseiller d'autres films que ceux que nous avons évoqués ce soir. On va commencer avec les conseils de Daniel.
Alors, ce n'est pas un film, c'est un livre.
Un livre.
C'est un livre...
Mais un livre sur le cinéma.
Ah, mais bien entendu. C'est un livre d'entretien de Pierre Rissian avec Samuel Blumenfeld.
Ah, il faut rappeler un peu quand
Pierre
même
Rissian,
qui est Rissian.
Voilà, alors je vais le rappeler. Le titre, le beau titre de ce livre, c'est « Mr. Everywhere ». Et ce nom lui a été donné par son ami Clint Eastwood. Et Pierre Rissian, dont Bertrand Tavernier dit que c'est un regardeur infatigable, il a été découvreur, producteur, sélectionneur, programmeur.
Oui, il a tout fait.
Transmetteur. C'est un fou de cinéma. Il a consacré sa vie au cinéma. Il a fait tous ses métiers inouïs. Et vraiment, les entretiens avec Samuel Blumenfeld racontent cette vie de cinéma totalement investie par le cinéma. Et c'est vraiment magnifique.
Et c'est,
Et c'est publié par l'Institut Lumière et Actes Sud.
Actes Sud. Le conseil de Pierre.
Alors, mercredi prochain sort un film que moi, je trouve formidable, qui s'appelle « Dogs » de Bogdan Merița, qui était à Un certain regard. Et ça se passe dans la Roumanie, au fin fond de la Roumanie. Il y a un jeune mec qui hérite de terres infertiles qu'il veut vendre, et il peut pas parce qu'il y a une véritable mafia qui a échappé aux communistes et qui continue comme ça. C'est à la fois un polar, un western. Il y a un personnage magnifique de vieux policier, j'allais presque dire de shérif, qui rappelle, vieillissant, malade, mais qui continue à faire son devoir, qui rappelle un peu les héros de John Huston à Hollywood. Enfin, le mec fait un premier film étonnant. Et voilà, ça s'appelle Dogs de Bogdan Merița.
Donc attention, c'est à partir de mercredi prochain. Le conseil de Michel.
Alors je vais raccorder avec Dogs qui prouve la vitalité formidable du cinéma roumain. Premier film étonnant. Et je reviens sur
Rafi Pitz. Cette année, on n'a parlé que de films roumains.
Je reviens à Rafi Pitz très brièvement parce que le scénariste de Soy Nero, c'est le scénariste de La mort de Dante Lazarescu et de 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Donc il a été cherché, tout de même pas n'importe qui, un grand scénariste roumain. Alors, d'accord avec Daniel, parce que moi j'aurais voulu parler de ce livre formidable, parce que d'abord il parle de mise en scène constamment, ce qui est rare dans les livres de cinéma. Il parle vraiment avec précision pourquoi il aime Fritz Lang, pourquoi il aime Lozay, pourquoi il aime Lino Broca. Mais moi je vais simplement, c'est plus léger, je vais recommander le numéro 20 de Schnock, de la revue Schnock, consacrée à Catherine Deneuve.
Avec positif, c'est une de mes revues préférées.
Voilà, alors Schnock, c'est un numéro, il y a 40 pages sur Catherine Deneuve, avec un entretien, elle n'en donne pas des masses, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est passionnant, avec les films qu'il préfère, mais aussi elle raconte, c'est plutôt anecdotique, elle ne parle pas tellement du jeu de l'acteur, mais elle raconte beaucoup de choses tout à fait passionnantes. C'est un très très bon numéro, comme tout d'ailleurs, tous les numéros.
Comme tous les numéros de Schnock, notamment.
Je rappelle que Catherine Deneuve va recevoir le prix Lumière.
Un des meilleurs numéros de Schnock était consacré exclusivement au Père Noël est une ordure. Ce qui montre quand même la qualité de cette revue. Mais je suis très sincère en plus. Jean-Marc.
Une reprise de Showgirls de Paul Verhoeven qui était sortie il y a 20 ans, qui avait été un désastre commercial et un éreintement critique. Moi, je ne l'avais pas vu à l'époque. Je l'ai découvert récemment et je trouve que c'est un film formidable. Et c'est un film qui passait pour être d'une très grande vulgarité. Or, c'est un film d'une élégance d'écriture et de mise en scène absolument prodigieuse.
Merci Daniel Eman, Pierre Murat, Jean-Marc Lalanne et Michel Simon pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à la technique au Sacha Guitry. Il y avait Cédric Chatelus, Julie Garraud, Ludovic Auger, Emma Iwen, Le Jehan, la réalisation étant de Didier Lagarde. Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, ce sera le jeudi 6 octobre. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au film, l'autre consacrée au livre. Et c'est de théâtre dont on parle la semaine prochaine, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.